Bonjour et bonne année à vous tous qui êtes de bonne volonté. Que Dieu vous bénisse, que la santé vous accompagne et toutes les promesses de Dieu, que vous puissiez vous les approprier afin de vivre une bonne vie, vous et aussi toute votre famille. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on oublie de prêcher très souvent et d'enseigner, des choses toutes simples mais qui sont des bases, vraiment des bases. Et là, je vais faire toute une série pour commencer cette année au sujet de qu'est-ce que c'est le salut? C'est quoi le salut? Parce que, voilà, nous avons un sauveur, mais il nous sauve de quoi? Et nous devons avoir conscience de nos racines, de nos racines qui sont en Dieu, notre Père céleste, notre Créateur. Et nous pouvons donc, à partir de là, nous identifier à son dessein, au plan qu'il a pour nous dans ce monde. Et une fois que nous nous sommes repentis, que nous sommes baptisés, que nous avons reçu son esprit en nous, eh bien, on a commencé à vivre une vie qui que Dieu, en fait, on commence à vivre la vie que Dieu nous destine à nous, ses enfants. Alors, cette vie, elle est fondée sur une foi qui est positive. Je suis pas en train de faire de la pensée positive, mais parce que les gens de la pensée positive nous ont piqué des idées, hein, ils ont piqué des idées dans la Bible. Notre vie, elle est fondée, notre vie de foi, elle est fondée sur une foi positive, une façon de penser positive, une façon de parler positive, une façon d'agir positivement. Et d'où nous vient cette positivité? Eh bien, c'est pas de l'autosuggestion que nous nous faisons. Cette foi, elle repose véritablement sur ce que notre Père Céleste a dit par ses prophètes, par Jésus et par ses apôtres, c'est-à-dire ce que j'appelle toujours la Bible, la Bible, la Bible. Vous savez bien que je reviens toujours sur la Bible, la Bible, la Bible. C'est très important, la parole de Dieu, la Bible. Et je voudrais vous donner des textes de la Bible pour vous montrer ce que c'est que le plan parfait de Dieu pour votre salut. C'est pas seulement le salut de votre âme pour l'éternité, mais ça comprend tout ce qui concerne votre vie, même ici-bas. Et je voudrais faire une étude, et ça prendra peut-être deux, trois, peut-être trois, quatre prédications. Je voudrais commencer ce soir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est dans Romains chapitre 10, verset 17. Vous pouvez le lire, hein. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend dans le sens de ce qu'on comprend, hein, comme quand quelqu'un dit quelque chose et on dit oui, je t'entends bien, ça veut dire oui, je te comprends bien. Si on comprend ce que Dieu dit, alors notre foi augmente. La foi ne vient pas d'ailleurs. Elle ne vient pas d'autre chose que de ce que Dieu dit. Elle ne vient pas des traditions, elle ne vient pas des dogmes, elle ne vient pas des visions de la sœur Trouchu. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est pas parce que quelqu'un vous a dit, oh, j'ai une vision. Non, non, non. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant, si la vision que quelqu'un a eue sur votre vie est conforme à la parole de Dieu, pourquoi pas. Mais enfin, bon. Elle vient de ce que Dieu dit dans la Bible. Voilà. Beaucoup de chrétiens ont une espèce de mélange de fausses et de bonnes croyances. Et ce soir, je voudrais vous commencer une étude, donc, comme je vous le dis, afin que si votre vie n'est pas une bonne vie épanouie, et si vous vivez dans l'ennui, la médiocrité ou que sais-je, eh bien que vous puissiez enfin sortir de là parce que c'est pas possible. Le monde, et en particulier en France, ça va mal, quoi. Je veux dire, on le voit, mais pour un chrétien, on doit voir la différence. Pour un chrétien, on doit voir la différence. Et les vérités que je vais vous donner vont vous conduire loin des complexes de culpabilité. Pourquoi des complexes de culpabilité? La plupart des gens ont des complexes de culpabilité à cause d'une vie qui n'est pas en harmonie avec Dieu. C'est tout. Et même s'ils ne connaissent pas les bonnes lois de Dieu, dans notre cœur, les lois de Dieu sont inscrites. On sait bien ce qui est mal, ce qui est bien, on le sait. Alors, ces vérités, vous allez les atteindre et elles vont vous permettre d'atteindre ce pourquoi vous avez été créé. Et aussi, vous allez pouvoir atteindre, avoir de l'estime pour vous-même. Je vois tellement de gens qui ont si peu d'estime d'eux-mêmes et qui sont tellement ratatinés. Ça me fait mal au cœur. Alors je sais bien, c'est peut-être pas vous personnellement qui êtes ratatinés, mais il y a des gens qui sont dans un état pas possible. Et c'est à eux surtout. Vous savez, Jésus l'a dit, hein, ce sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin des médecins, mais ce sont les malades, les gens qui souffrent. Et je voudrais parler principalement aux gens qui souffrent. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous allez bien dans votre vie, faut pas écouter. Au contraire, faut bien écouter parce qu'on ne sait pas comment ça va aller après. Hein. Donc, il faut que vous appreniez les bonnes choses de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, et non pas ce que vous imaginez être. Et comment venir simplement à Dieu pour partager quoi ? Pour partager son style de vie. Recevoir la vie éternelle, c'est recevoir la vie de l'éternel. C'est recevoir son style de vie. Alors vous allez découvrir une nouvelle puissance, un nouveau but, des nouvelles motivations, et ces vérités vont changer votre existence, votre vie. Vous allez passer de la défaite au succès. C'est pas de la blague, hein. C'est pas de la blague. De la maladie à la santé, tout ça c'est dans les Écritures. De l'ennui à l'enthousiasme, hein, des problèmes aux solutions, voilà aussi, hein. De la tension à la joie, de la pauvreté à la prospérité. Dieu n'est pas contre la prospérité. C'est pas parce qu'il y a des zinzins qui font du pognon en prêchant un évangile de prospérité que Dieu veut que vous soyez pauvre, pauvre de pauvre. Non, il veut que vous soyez prospère à tous égards. Et il va vous sauver. Si vous êtes dans le désespoir, il va vous emmener dans un bonheur, dans une paix. Voilà, votre Père vous aime et il veut le meilleur pour vous. Alors, si vous gardez ces paroles, si vous gardez les paroles de Dieu dans votre cœur, dans votre mémoire, sur vos lèvres, eh bien, tout ce que Dieu dit, il le fera. Vraiment, il le fera. Bon, je vais commencer. Bah, tout d'abord, il faut, si je veux vous parler du plan du salut, il faut d'abord que je commence par, quelque chose, une mauvaise nouvelle. C'est que vous allez découvrir, tôt ou tard, si vous êtes jeune chrétien, hein, que nous avons un ennemi. Alors, cet ennemi, c'est Satan. La Bible parle 175 fois de lui. Alors, vous avez des gens qui se croient très malins en pensant que Satan n'existe pas, gna gna gna. Moi, j'y crois parce que la Bible dit que c'est vrai. Donc, j'y crois, voilà. C'est pas, voilà. Et la Bible le nomme parfois Lucifer, le diable, Satan, l'adversaire, le dieu de ce siècle, hein, l'ennemi, le tentateur, le malin, le prince de ce monde, le meurtrier, enfin bon, il a beaucoup d'autres noms encore, le qualificatif, et vous allez le rencontrer tôt ou tard, surtout le rencontrer sous sa forme la plus subtile, celle de l'accusateur. Alors déjà, c'est lui qui vous tente, qui vous pousse à pécher, puis après il vous accuse. C'est vraiment, bon. Alors, quand vous êtes découragé, ou que vous êtes tenté de douter de vos expériences avec Dieu, remémorisez-vous les textes que je vais vous donner à partir de ce soir. Je vous dis, ça va être une série de 3-4, je ne sais pas encore, prédication, mais remémorez-vous les choses. C'est la façon efficace pour résister au diable, c'est de connaître les Écritures. L'apôtre Jacques nous le dit, il nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4-7. L'apôtre Jean nous dit que nous sommes vainqueurs de Satan à cause du sang de Jésus et de la parole de notre témoignage. C'est-à-dire que nous pouvons vaincre Satan parce que Jésus a versé son sang à la croix en sacrifice pour nous. Et nous parlons maintenant comme des fils et des filles de Dieu. Et il est obligé de fuir loin de nous, il est obligé de partir. Ça, c'est écrit dans Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Notez-le sur un bout de papier. Prenez un bout de papier et puis notez ces versets que je vous dis. Parce que c'est très important. Apocalypse 12, 11. Ensuite, voilà pourquoi je vous dis que l'accusateur, c'est subtil son truc à lui. Dans la Bible, vous allez apprendre comment Jésus a vaincu chaque tentation de Satan. Vous allez apprendre comment il a fait. Vous lirez dans Matthieu, chapitre 4, verset 6, verset 10, à chaque fois que le diable venaient vers lui, eh bien, il lui résistait en lui citant, Jésus lui citait des textes bibliques. Il lui disait, il est écrit. Alors le diable venait, puis il disait, oui, mais il est aussi écrit. Alors Jésus dit, il est écrit, ça. Et il connaissait, Jésus connaissait les Écritures et il les citait au diable. Il ne disait pas, oui, t'es pas gentil de venir m'embêter, ça fait 40 jours que je jeûne, et puis t'en profites pour venir m'embêter. Non, il n'avait pas des arguments comme ça. Il lui parlait avec les Écritures. Vous voyez, il faut lui parler avec les Écritures. Voilà pourquoi je vous dis que quand l'accusateur vous tente, vous embête, il faut que vous lui citiez des textes sacrés. Et je vais vous en donner, il va falloir que vous les appreniez et que vous les citiez à haute voix chaque fois qu'il se présente d'une manière ou d'une autre à vous. Et il vous arrivera, si vous le faites, hein, il vous arrivera la même chose qu'à Jésus, la Bible nous dit, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus pour se mettre à le servir, dans Matthieu 4, 11, voilà ce qui est écrit. Ça, c'est magnifique. Les gens parlent tout le temps des démons, mais ils oublient qu'il y a des anges qui peuvent venir et puis vous aider, vous secourir, vous bénir. Hein. Il est écrit. Alors, je vais pas tout vous donner ce soir, donc vous avez bien compris, je vais vous donner quelques textes qui ont de l'effet sur l'ennemi et qui vont fortifier votre foi, votre personnalité spirituelle. Alors, écrivez-les sur un bout de papier, achetez même un petit carnet spécial pour vous garder sur vous, et apprenez-les par cœur, pourquoi pas, et puis je reviendrai vous en donner d'autres dimanche, et puis les autres jours. La première chose à savoir, c'est que Dieu vous voyez comme un pécheur. Il vous voyez comme un pécheur. C'est écrit attendez que je cherche le texte, c'est écrit dans Romains 3, 23. Romains 3, 23, c'est écrit, Romains 3, 23, c'est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tout le monde, moi-même, tout le monde, on a tous péché, et on est donc, à cause de ça, privés de la gloire de Dieu. Il faut qu'on apprenne, il faut que vous sachiez, je pense que vous le savez déjà, que vous étiez coupable devant Dieu, est passible de la peine de mort. C'est lui qui a édicté cette loi. Hein, on trouve ça dans Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, tu pêches, ben ton salaire, c'est la mort. Voilà. La séparation d'avec Dieu, la séparation d'avec la vie, c'est-à-dire la destruction, voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est aussi écrit que Dieu vous a tellement aimé qu'il a décidé de trouver un moyen de salut pour vous, afin que vous ne périssiez pas. C'est écrit dans 2 Pierre 3, 9. Il est dit, Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, il ne veut pas que vous périssiez, mais il veut que vous arriviez à la repentance, parce que la repentance mène au salut, mais c'est un acte que vous devez faire vous-même, vous repentir. Et Dieu a offert ce qu'il avait de meilleur, n'est-ce pas, pour prouver son amour. C'est écrit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le don de Dieu, c'était donc Jésus-Christ. Et il est mort pour vous, pour moi. C'est une certitude, c'est pas juste un verset isolé. On trouve dans Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, il est mort à notre place. Alors, on se rend compte, vous vous rendez compte, je me suis rendu compte que c'était mes péchés qui me séparaient de Dieu. C'est pas parce que Dieu m'aimait pas, ou parce que... Non, c'est parce que je péchais, alors il y avait une barrière entre Dieu et moi. On trouve dans Ésaïe 59, 2, « Mais vos iniquités, vos injustices, ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face. » C'est nos péchés, c'est pas parce que il a pas des chouchous, il a pas des gens qu'il préfère, et puis d'autres qu'il n'aime pas. c'est les péchés qui font que nous sommes séparés de Dieu. Alors, sachant que ce sont vos péchés qui ont coûté à Dieu, mes péchés qui ont coûté à Dieu son Fils, et à Jésus sa vie, son sang, eh bien, vous vous repentez, je me suis repenti moi aussi. Vous avez été, la Bible dit dans, attendez que je vois le verset, c'est dans Luc 13, 3, vous avez été attristé selon Dieu, non c'est pas ça, c'est pas ça, c'est 2 Corinthiens 7, 9 et 10, il dit vous avez été attristé selon Dieu, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Et vous avez su que si vous ne vous repentez, eh bien vous allez tous périr. Ça, c'est dans Luc 13, 3, ce verset que j'avais noté là. C'est-à-dire qu'on a tous attristé Dieu, puisqu'on a tous péché, on est tous séparés de Dieu, et puis voilà que nous avons eu une tristesse selon Dieu qui nous a poussé à la repentance. Pas une tristesse selon le monde, mais une tristesse d'avoir... On a été attristé d'avoir attristé Dieu. Alors on s'est repenti et l'apôtre dit si vous vous repentez pas, vous allez tous périr. Voilà. Alors vous lui avez confessé vos péchés, il vous a purifié. Ça c'est ce que nous trouvons aussi dans la Bible. Je vous cite tous les versets pour que vous puissiez aller les lire tranquillement après et que cela confirme que ce que je vous dis c'est pas du Michel Janton, c'est la Bible, c'est la Bible. Alors ce verset se trouve dans 1 Jean, la première épître de Jean. Au chapitre 1, verset 9, où Jean dit, « Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous les disons à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà, allez raconter vos péchés à Dieu. Vous n'êtes pas obligé de les raconter à quelqu'un. Vous parlez à Dieu, il vous entend, il n'est pas sourd, il vous entend, il vous aime, il est à même pas un centimètre de vous, il est là avec vous en ce moment, il vous écoute, il vous entend, et il suffit de lui dire, vous lui parlez de vos péchés, et il vous pardonne. Alors, vous reconnaissez que Jésus est à la porte de votre cœur, et vous le recevez, vous devenez enfant de Dieu, ça on trouve ça dans, Jean chapitre 1 verset 12, il est dit... Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est à ceux qui le reçoivent qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et devenant enfant de Dieu, vous devenez une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, ou comme je vous disais dernièrement, sont en train de devenir nouvelles. » Alors, vous avez reçu Jésus-Christ, vous savez que vous êtes né de nouveau, vous le savez parce que vous avez fait ce qu'il fallait, Dieu a fait ce qu'il fallait pour vous sauver, et ce qu'il vous demande, c'est de vous repentir. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On trouve ça dans Jean 3, 7. Et quand vous avez reçu Jésus pour devenir enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. On trouve ça dans Jean 1, 13. C'est pas parce que vous avez voulu, ou que vos parents, ou ceci, ou que... Non, c'est parce que vous êtes né de Dieu, parce que Dieu l'a voulu. Il vous a trouvé, il vous a cherché, vous étiez la brebis perdue, il vous a trouvé, il a permis que vous puissiez écouter la parole de Dieu, que vous la compreniez, votre foi a augmenté, vous avez reçu Jésus dans votre cœur et maintenant vous êtes né de nouveau. Alors vous croyez le puissant message de l'évangile, de la bonne nouvelle qui sauve. La bonne nouvelle sauve, on trouve ça dans Romains chapitre 1 verset 16, il est dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. Pour les autres, c'est une folie. C'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Alors vous croyez au nom de Jésus-Christ à cause du témoignage des évangiles. C'est écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, c'est dans Jean 20, verset 31. Voilà. Ces choses ont été écrites pour ça, pour que vous sachiez et que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Alors donc, vous invoquez son nom, vous invoquez plus n'importe quel nom, vous invoquez son nom, lui, à lui, et vous êtes sauvés, parce que c'est écrit aussi dans la Bible, Romains 10, 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et le nom du Seigneur, c'est Jésus. Hein? Et vous connaissez que Jésus est le seul chemin pour parvenir à Dieu. Il n'y en a pas 36 000, on ne peut pas venir à Dieu par Saint-Machin ou Saint-Truc. Non, c'est Jésus est le seul chemin pour venir à Dieu. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 2, 5. Donc il n'y a pas d'autre médiateur. Vous n'avez pas à prier la Vierge Marie ou Sainte Gudule. Ou... Non, c'est Jésus qui est le seul médiateur qui est entre Dieu, le Père et vous. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie en tant qu'homme sur la croix pour vous sauver. Voilà, donc ne perdez pas votre temps à sentimentalement prier d'autres personnes. Faites la volonté de Dieu, croyez ce que la Bible dit et faites ce que la Bible dit. Et vous verrez, votre vie va prendre un essor formidable. Mais respectez ce que Dieu dit. Hein. Si Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, pourquoi aller inventer des histoires en nous disant « mais non, on peut aussi prier d'autres personnes ?» Soyez. Si vous êtes chrétien, vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout de suite. Vous savez qu'il n'y a de salut en aucun d'autre. En aucun autre. Il n'y a personne d'autre qui est votre sauveur que Jésus-Christ. On trouve ça dans Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus. C'est en invoquant ce nom-là que vous êtes sauvés, pas en invoquant un autre nom. Alors vous mettez votre foi en Jésus, comme votre sauveur, comme il est écrit, c'est dans Éphésiens 2, 8, 9, il est dit, ce n'est pas parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quelqu'un l'autre jour m'a écrit, mais je ne comprends pas ce charabia. Mais ce n'est pas du charabia. Il suffit simplement d'écouter ce qui est dit, de lire ce qui est écrit, puis on comprend. Alors, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire c'est un don gratuit. C'est un cadeau. On est sauvé, c'est un cadeau de Dieu. Mais ce cadeau, on le prend par la foi. C'est-à-dire parce qu'on fait confiance, alors on prend ce cadeau. D'accord ? Et il dit, ce cadeau, le salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est pas du charabia quand même, c'est clair. Et il dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est-à-dire c'est pas parce que vous faites du bien que vous êtes sauvés, c'est pas par les bonnes œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas arriver devant Dieu en disant, oui, mais moi, j'ai donné beaucoup d'argent à l'œuvre de Dieu, et puis moi, j'ai prié pour les gens, et puis j'ai donné ma vie pour aider les pauvres, et puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Dieu te dira, oui, mais c'est pas comme ça qu'on est sauvé, mon pauvre ami. J'ai dit comment faire pour être sauvé. J'ai fait écrire comment faire pour être sauvé. J'ai envoyé mes serviteurs pour prêcher comment faire pour être sauvé. Tout ça, c'est écrit dans la Bible pour être sauvé. Il faut que tu crois en Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu peux faire de bien, c'est bien, c'est bien. Mais ça ne va pas te sauver. Dieu ne veut pas que tu te vantes d'avoir acheté ton ciel. C'est Jésus qui a payé le prix pour que tu puisses entrer au ciel. Et tu dois croire ça. C'est ça qui t'ouvre la porte. C'est si tu fais confiance dans l'œuvre de Jésus sur la croix pour ton salut. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors ensuite, vous avez cru, vous croyez que le Seigneur entre dans votre vie. Il dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Lisez-le, vous verrez. Pour être sauvé, vous ne faites confiance ni à vos bonnes œuvres, ni à votre propre vertu. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Voilà ce que le prophète Ésaïe disait. Ésaïe 64, 5. Toute votre justice, là, tout ce que vous faites de juste, de bien, tout ça, c'est comme un vêtement souillé. Votre salut n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. C'est clair, clair, clair. Vous n'êtes sauvés que par la miséricorde de Dieu. D'accord ? Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ça, c'est dans Tite 3, 5 à 7. Relisez le texte, analysez bien les mots. Les mots ont une signification, ils veulent dire quelque chose, ils ne veulent pas rien dire du tout. C'est écrit de façon à ce qu'on puisse comprendre. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice qu'on aurait faites, mais il nous a sauvés par, selon sa miséricorde à lui, par le baptême, c'est-à-dire par l'immersion de la régénération, c'est-à-dire par l'immersion dans la nouvelle naissance, on est régénéré, né de nouveau. Et par le renouvellement du Saint-Esprit, là, il nous donne le renouvellement, il nous remplit de son esprit, il nous renouvelle. Et nous sommes justifiés par sa grâce, et on devient, en espérance, héritier de la vie éternelle. C'est une espérance magnifique de savoir qu'un jour, nous allons quitter ce corps et que nous allons, n'est-ce pas, être éternels avec notre Seigneur. Et, alors, voilà. Ensuite, vous savez que c'est la mort de Jésus qui vous justifie devant Dieu et rien d'autre. On trouve ça dans Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Allez directement à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Vous passez par lui, par personne d'autre que lui. Vous savez que c'est son sang qui efface vos péchés. C'est rien d'autre que son sang qui efface vos péchés. C'est écrit dans Matthieu 26, 28. Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés par lui de la colère à venir? Ça, c'est Paul qui dit ça aux Romains, chapitre 5, verset 9, mais il nous le dit à nous aussi. Il nous aime et il nous a justifiés par son sang. Son sang a coulé pour nous, alors que c'est notre sang qui devait couler. À cause de nos péchés, nous étions condamnés à mort. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début. Mais non, il a versé son sang pour que nous puissions être purifiés, justifiés. Alors, vous savez que donc vous êtes délivrés de vos péchés. Ça, c'est dans Apocalypse 1, 5. Il est dit à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés, voyez, donc à Jésus qui nous aime et qui nous a lavé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, ça on trouve dans Colossiens 1, 4, il nous aime, il a enlevé nos péchés, vos péchés sont ôtés de devant sa face, ils sont oubliés, Dieu oublie vos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, vous vous rappelez, hein? Jean 1, 29. Et cet autre verset magnifique dans Hébreux 10, 17. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Non, pardon, c'est le psaume 103, ça. C'est le psaume 103, oui. Psaume 103, 12, voilà précisément. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est pourquoi Dieu vous dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités. C'est ça, Hébreux 10, 17. Vous savez que la mort de Jésus a payé le prix pour vos péchés. Vous le savez par les Écritures. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois de la croix, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, c'est comme si c'était nous qui étions morts. Et maintenant, nous pouvons vivre pour la justice. Esaïe 53, 4, ou non, je crois que c'est Esaïe 53, 5. Il est dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est-à-dire que nous n'étions pas en paix avec Dieu à cause du péché, nous étions séparés de Dieu à cause du péché, mais ce châtiment que nous méritions, c'est lui qui l'a pris en pleine face. Il est mort à cause de nous, mais il a voulu ça. Il s'est offert volontairement en sacrifice. Alors, maintenant, vos péchés étant punis et lavés, vous savez qu'ils ne pourront plus jamais vous condamner. Vous comprenez ça aussi ? Écoutez ce texte, c'est magnifique. C'est dans Romains 8, 1. Écoutez ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait devenir Jésus péché afin que nous devenions justice. C'est-à-dire en langage financier, je vous dirais que Dieu a pris sur le compte de Jésus sa justice, il l'a mis sur notre compte, et il a pris sur notre compte nos péchés et il l'a mis sur le compte de Jésus. C'est clair ? C'est Dieu qui a voulu ça, c'est Dieu qui a fait ça, par miséricorde, par amour pour nous. Maintenant, la moindre des choses, c'est que nous y croyons. Vous comprenez pourquoi il est nécessaire d'avoir la foi dans ce qu'il dit, et non pas dans des légendes, ou des dogmes, ou des trucs. Alors, je reprends. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, c'est 2 Corinthiens 5, 21. Et là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés, c'est-à-dire on ne peut plus faire des sacrifices pour les péchés, puisque les péchés ont été... C'est déjà fait, le sacrifice est fait. Et ça c'est écrit dans Hébreux 10, 18. Il n'y a pas besoin de faire des nouveaux sacrifices pour être pardonné. Vous savez qu'ils se flagellent, vous savez... Mais non ! Lisez la Bible, écoutez ce que Dieu dit. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés, de sorte que maintenant rien ne nous séparera plus jamais de l'amour de Christ. Romains chapitre 8, verset 35. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Nous sommes de nouveau unis à lui, nous étions séparés à cause de nos péchés, mais parce que nous croyons en lui, nous croyons dans ce qu'il a fait à la croix, nous sommes maintenant de nouveau en lui, pas seulement à côté de lui, mais en lui, avec lui, tout le temps, partout. C'est magnifique, c'est ça la bonne nouvelle. Vous savez qu'en acceptant Christ, vous recevez sa vie. C'est écrit dans 1 Jean 5, 12, « Celui qui a le Fils a la vie. » Parce que Jésus a dit « Je suis la vie. » Si nous avons Jésus-Christ avec nous et en nous, nous avons la vie, sa vie. Car celui qui écoute ma parole, ça c'est Jésus qui parle, et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc qui croit à mon Père, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Celui qui écoute la parole de Jésus, celui qui croit ce que Jésus dit, a la vie éternelle et il ne viendra jamais au jour du jugement, il ne viendra pas devant le trône pour être jugé. Voilà ce que Jésus dit. Pourquoi il ne viendra pas être jugé ? Parce qu'il a, vous avez déjà été jugé en Jésus-Christ à la croix. Il a été puni à votre place, il était jugé à votre place, il était puni, il en est mort. vous ne serez pas jugé pour vos péchés parce qu'il a été jugé à votre place. Donc vous ne viendrez pas au jugement comme les pécheurs et les impies qui ne croient pas en lui. Vous comprenez cela? Vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Dans Jean 17, 3, il est dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Alors Satan peut vous accuser, vous savez qui va vous accuser. C'est dans Job 1, 6, 12, je crois que c'est ça, Jean. Non, c'est dans Apocalypse 12, 10, il est dit « C'est lui l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, tout comme il a accusé Job. Hein, » alors Job, c'est Job 1, 6, 12. Un jour, on va voir le diable, on va dire « C'est lui qui nous tentait, qui nous accusait tout le temps. » Bah dis donc, quelle fin. Ça va être terrible pour lui, mais il l'a pas mal volé. Il a bien cherché. Nous sommes vainqueurs. À cause de Jésus, grâce à Jésus. Alors, maintenant, je vous ai dit toutes ces choses-là, la prochaine fois je reviendrai et je vous dirai d'autres choses, parce que ça c'est la base pour pouvoir avoir tout le reste. Ça c'est le salut pour votre âme, pour votre éternité, mais après il y a tout le reste. Il y a tout le reste pour pouvoir vivre une bonne vie de santé, de prospérité. Ah, les gens, là, ils viennent de se souhaiter la bonne année, bonne santé. Ah, surtout la santé, on en a bien besoin. Ben oui, on en a bien besoin. Mais Jésus a fait des promesses pour la santé, il a fait des promesses pour la prospérité, il a fait des promesses pour la protection, il a fait des promesses pour toutes sortes de choses. Et la prochaine fois, je reviendrai là-dessus et je vous raconterai, je vous parlerai, je vous donnerai les versets bibliques et ça va vous bénir. Ça va vous bénir, je le sais. Moi, je vis comme ça depuis 1968. J'ai eu le privilège de rencontrer Raphaël Duval, le gitan, qui m'a parlé de ça. Ensuite, j'ai eu le privilège de rencontrer T.L. Osborne, qui a encore enfoncé le clou en m'en parlant encore plus profondément. Et j'ai eu le privilège de rencontrer les hommes de Dieu les plus remarquables du 20e siècle et du 21e siècle. Et je loue le Seigneur de ce que j'ai compris le message de la Bible. Et l'ayant compris, est-ce que vous pensez que je peux garder ça pour moi? Non. C'est pourquoi je le partage avec vous. Seigneur Jésus, je te prie que tous ceux qui ont écouté ce message se réjouissent parce qu'une année magnifique commence maintenant, basée sur ta parole, au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, vous qui écoutez ce message. Amen et Amen. Au revoir.